Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Alors hier soir, c'était l'avant-dernière émission des Francs-Tireurs et j'ai présenté une entrevue que j'avais enregistrée il y a quelques jours avec Joseph Facal et c'est pour moi l'entrevue la plus importante que j'ai faite en 23 ans. C'était, je me vante pas en faisant ça, c'est pas moi, c'est grâce à Joseph bien sûr, c'est des réponses de Joseph, ce qu'il avait à dire et Mathieu tenait à en parler aujourd'hui. Salut Mathieu.
Bonjour.
Bonjour. Alors, quel homme, quand même, Joseph Facal?
C'est assez particulier parce que c'est un homme qui a été au cœur des univers probablement les plus conflictuels sans jamais perdre la tête. Hein. En politique, il s'est engagé très jeune pour le combat national. Il était président des jeunes péquistes au moment de l'accord du lac Meech, député à partir de 94 jusqu'à 2003, lié au premier, donc il était proche de M. Parizeau, proche de M. Bouchard. Il était au cœur du deuxième référendum. Il a porté la loi 99 qui défendait les droits fondamentaux du peuple québécois en réponse à la loi sur la clarté. Donc, il était au cœur de la politique pendant les années les plus difficiles. Puis quand il a quitté la politique, on s'en souvient, il avait fait une critique de la lourdeur bureaucratique d'un certain modèle québécois, sans renier des idéaux de partage, mais en disant, un instant, ce modèle-là va trop loin. Et on lui en avait fait, puis on l'avait très sévèrement critiqué à ce moment-là. Ensuite, il va dans le milieu intellectuel, où en fait, il y avait déjà son doctorat, mais il s'en va ensuite dans le milieu universitaire, et qui est probablement aujourd'hui le panier de scorpions le plus venu, le plus toxique qu'on puisse imaginer. Et dans cet environnement, encore une fois, il incarne une liberté de pensée, une liberté d'esprit qui est très, très, très rare dans ce milieu. Et on l'a vu évoluer au fil du temps, Facal. Il y a un livre, quelque chose comme un grand peuple qui avait écrit sur la question nationale, mais et quelques autres, son livre avec André Pratt, son livre sur le système de santé, mais au-delà de ça, on l'a vu évoluer à partir d'une position qui était celle, on pourrait dire, d'un social-démocrate modéré et éclairé, embrasser de plus en plus les fameuses questions culturelles, les questions qui touchent non plus seulement à l'organisation de notre société, ce qui est une chose très importante, mais on est obligé aujourd'hui de poser des questions qui touchent à la définition même de notre société. Donc, on est passé de la question à comment organiser la société à qu'est-ce qui nous lie ensemble fondamentalement? Qu'avons-nous en commun? Est-ce que nous avons, quelle est la conception de l'être humain sur laquelle on repose? Quelle est notre conception de la liberté? Donc, c'est un débat autrement plus difficile. Et dans ce débat-là, qui, on le sait, on l'a encore vu ces derniers jours, est particulièrement difficile, surtout à l'université et dans les médias, où il y a une espèce de politiquement correct, de progressisme obligatoire qui écrase tout. Facal se tient droit chaque fois. Il se tient droit de manière tout à fait admirable avec une clarté d'expression, une culture, jamais de compromis sur la qualité du propos, mais une capacité de frapper droit, de frapper très clairement. Alors, l'entretien d'hier, c'est une forme d'entretien bilan pour toi, mais plus largement pour lui, c'est une espèce de rapport d'étape où on est rendu sa réflexion, et c'était, je crois, probablement des entretiens qui peut éclairer le mieux, quand on prend un peu de distance sur l'actualité immédiate, les tendances qui nous heurtent aujourd'hui.
C'est ça, parce que bon, il parlait de la religion woke, il parlait de la gauche radicale, il parlait de la gauche qui avait beaucoup changé, de ses déceptions, de la rectitude politique, mais il le fait sans agressivité, de façon posée et extrêmement claire.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Ben, il faut se souvenir, il y avait un temps une chronique, je pense que c'était à l'émission Bazo.tv, si je me trompe pas, oui, qui avait pour titre « Facal a raison ». Et c'est souvent le sentiment qu'on a quand on écoute Joseph, c'est « Facal a raison ». Il y a une clarté d'expression, il y a une culture, il y a aussi la capacité très importante et trop rare, à mon avis, aujourd'hui, d'éclairer l'actuel à la lumière de l'histoire, de faire les parallèles historiques qui s'imposent lorsque c'est nécessaire, de conjuguer en fait la culture dans sa forme la plus exigeante avec l'analyse de l'actualité telle qu'elle se déploie sous nos yeux. Ce qui fait que sa chronique est un rendez-vous, à mon avis, essentiel, obligatoire dans le journal, mais ce qui fait que dans un entretien bilan comme ça, qu'il te propose à la fin des Francs-Tireurs aussi, vers la fin des Francs-Tireurs, c'est que ça nous permet de voir un peu où on en est rendu collectivement. Et je crois qu'ils sont nombreux en ce moment à se dire, en regardant ton parcours, parce que la rumeur veut que tu viennes quand même pas de la droite conservatrice à l'origine, en regardant son parcours, qui lui non plus n'est pas celui d'un homme qui vient viendrait de je ne sais quelle lointaine contrée réactionnaire ou ainsi de suite. Eh bien, deux hommes éclairés qui ont suivi un parcours globalement, ils en viennent à se dire, bon, mais ce que l'on tenait pour acquis ne l'est plus. 2 + 2 ne veulent plus nécessairement, ne font plus nécessairement 4. Certaines évidences sont aujourd'hui contestées. On marche la tête à l'envers. Eh bien, peut-être est-il temps de rappeler ces quelques principes de bon sens élémentaires. Et ça, je pense que, en ce moment, il y a une soif, un désir, un besoin, tout ça à la fois dans la population, d'un discours pour revenir sur terre, ramener les pieds sur terre et se sortir de cette espèce de se sortir des nuées idéologiques qui nous intoxiquent comme pas possible.
J'aime beaucoup l'accent de Joseph. C'est quelqu'un qui vient de l'Uruguay. Et la façon dont il parle, on dirait qu'il y a un scalpel et c'est très clair. Chaque consonne est détachée, tout ça. C'est vraiment comme un mathématicien qui a démonté hier la logique, comme tu le fais si bien aussi, qui a démonté la logique de la rectitude politique et du mouvement woke. Est-ce que tu crois que Joseph aurait fait un bon chef au PQ?
Ah, mais je suis de ceux qui l'ont espéré longtemps. Je suis de ceux qui l'ont espéré longtemps. Je crois qu'on était nombreux à l'espérer longtemps. Ensuite, chaque homme fait ce pourquoi il se croit appelé à faire. Donc, j'ose croire que lui-même y a pensé un jour. Est-ce qu'il revient? Je pense qu'il n'avait pas fermé la porte. Ensuite, les circonstances font pas. Mais je pense qu'il y avait je sais pas s'il y en avait le désir ou la volonté, mais il y en avait assurément la capacité et aussi la capacité de nous le faire espérer. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis il y a une chose qui est remarquable chez Joseph. Alors, tu l'as dit, il est né en Uruguay. Il est arrivé au Québec autour de, je pense, en 70, pas loin de la crise d'octobre. Il devait avoir 10 ans. Joseph, quand dans l'entretien, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait hier de nos ancêtres qui ont dépierré ce pays-là, qui traversaient les épreuves les plus inhumaines. Il parlait du Québec, là. Il parlait de nos ancêtres au moment de l'arrivée ici, des hivers impossibles. Tout cet effort au fil des siècles pour maintenir ici une société française qui réussit à se tenir. À aucun moment, il dit, ben, leurs ancêtres à eux, non, il dit nos ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sait, il est arrivé ici à 10 ans, il s'est approprié cette histoire, il se l'est approprié au point tel qu'il nous montre ce que ça veut dire quelqu'un qui vient d'ailleurs sur le plan du point de naissance géographique, mais qui s'approprie pleinement l'histoire de son pays d'accueil et qui en devient un patriote exemplaire. J'ajoute une chose, il n'a jamais senti le besoin pour autant de renier ses origines espagnoles, parce que je pense, si je ne me trompe pas, que c'est son grand-père ou arrière-grand-père qui venait d'Espagne, qui est passé par l'Uruguay puis qui est remonté vers le Québec. Donc, quand il y a eu une année sabbatique récemment, si je ne me trompe pas, il a passé du temps en Espagne pas mal, il n'a jamais renié cette part de lui-même, il n'a jamais renié notre rapport avec la France, il s'approprie pleinement au point où personne dirait il se l'approprie ou c'est vrai ou non, c'est pleinement son histoire, l'histoire des 400 ans du Québec. Ça, c'est quand même assez magnifique et ça nous rappelle quelque chose qui était vrai auparavant, c'est que autrefois, pour s'intégrer à une société, eh bien, on s'appropriait ses codes, ses références, et on se faisait fierté d'être un patriote dans le pays qui nous avait accueillis. Et c'est ce qui. Joseph Facal pourrait donner des leçons de patriotisme à des gens qui sont ici depuis 400 ans, le moins qu'on puisse dire. Eh bien, et moi, ça me permet de rappeler ce que j'aime dire, c'est qu'en dernière instance, il est devenu, bien qu'il soit arrivé ici à 10 ans, il est devenu un Québécois de souche, comme on dit aujourd'hui, comme toi, comme moi, comme Sophie, comme Ablon, comme Normand Bradway, comme Grégory Charles. On est, autrement dit, la notion de souche, là. Moi, je ne tiens pas à tout prix à ça, mais si on veut à tout prix l'utiliser, un Québécois à part entière, un Québécois qui porte 4 siècles d'histoire, mais il suffit de s'approprier cette histoire et cette culture pour brandir cet étendard. Je trouvais que c'était un entretien magnifique qui tenait tout ça ensemble et avec la rigueur intellectuelle d'un homme qui, tu le dis très bien, on aurait l'impression de la politique, mais on dirait aussi que c'est un cours de logique.
Oui, c'est un cours de logique et c'est un prof extraordinaire et on pourrait l'entendre, l'écouter pendant des heures, mais je sentais une grande inquiétude chez lui. Il se donnait le devoir d'être optimiste, mais je sentais son optimiste un peu forcé, même lui n'y croyait pas tout à fait. Il est inquiet vraiment, il est pas inquiet pour lui parce qu'il est rendu à un certain âge comme moi, je pense qu'on est le même âge, mais il est inquiet pour dans quel monde vont grandir nos enfants, dans quel monde intellectuel vont grandir nos enfants.
Oui, il avait, je dirais, l'optimisme obligatoire, comme certains croyants ont la foi vacillante, mais se font un devoir de s'agenouiller et de prier dans l'espoir de retrouver la foi. Alors, j'ai trouvé chez lui, là-dessus, une volonté d'optimisme, mais qui est loin d'être ça, tant qui n'est pas gnagnant, qui n'est pas niaiseuse. C'est que, sachant que l'histoire n'est jamais terminée, ça c'est une conviction de base, on ne sait jamais ce qui va se passer. Qui, quelque part, en octobre dernier, pouvait s'imaginer que la planète au grand complet serait confinée en 2020? Hein? C'est un peu imprévisible. Bon, qui, en 1987, 88, pouvait s'imaginer que le mur de Berlin allait tomber sans qu'il y ait de guerre et qu'il y ait une forme d'effondrement pacifique d'un empire totalitaire? Qui aurait pu le croire? Qui aurait pu voir ça? Donc, la situation actuelle est délirante. Moi, je crois, ça j'en suis convaincu, qu'il y a une tentation totalitaire qui se réactive aujourd'hui et que nous sommes moins outillés pour y résister que d'autres l'ont été au 20e siècle. Parce que pour résister au totalitarisme, il ne suffit pas de brandir l'esprit libéral, il faut avoir son propre sacré. Hein, le général de Gaulle tient tête devant les Allemands, les nazis, au nom d'une certaine idée de la France, ce génistine au nom de l'orthodoxie, et du patriotisme russe, les Polonais au nom du catholicisme et des libertés. Donc quand on n'a qu'une forme de liberté asséchée, qui n'est pas transcendée par un sentiment de valeur très élevé, on se sent un peu dépossédé. Je pense que notre époque aujourd'hui, devant la poussée totalitaire, on est paralysé par des gens qui, Joseph le disait très bien hier, une forme de transfert d'énergie religieuse qui s'opère sur des jeunes générations en quête d'un absolu et qui le trouvent dans le wokisme. Moi, ce que j'espère, et ça, c'est ce qu'on entendait de Joseph hier, me semble-t-il, c'est qu'il y a dans le patrimoine culturel de la civilisation occidentale, il y a un certain sens de l'admiration, de l'excellence, des œuvres, de la culture, de l'intelligence, de l'enracinement. Peu importe qu'on croit au ciel ou non, ça, c'est une question personnelle. Mais si on croit à la durée de cette civilisation, si on croit à la valeur de cette civilisation, puis dans notre cas, à la durée, à la valeur de ce pays qu'est le Québec, si on croit à ça, on a les armes nécessaires pour tenir devant la nouvelle agression idéologique qu'on subit. Mais il faut justement avoir cette conscience historique, cette conscience de l'enracinement pour être capable de tenir tête lorsque l'agression idéologique vient.
Et pour ceux qui n'ont pas vu l'entrevue, ceux et celles qui n'ont pas vu l'entrevue, elle est rediffusée à Télé-Québec ce week-end et je pense que vous pouvez aussi la voir sur le site Internet de Télé-Québec. Et je tiens à te dire, Mathieu, que tu es depuis quelques jours l'objet d'attaques absolument odieuses, scandaleuses par des gens qui ne te lisent pas, qui n'ont jamais lu un de tes livres. Je veux te dire, par les courriels que je reçois, les gens qui me parlent, nous sommes plusieurs à être scandalisés, nous sommes plusieurs à être derrière toi, puis garde le cap. Ils vendent beaucoup ces temps-ci pour toi, garde le cap, mais c'est odieux et c'est honteux, ces attaques-là. Merci.
Merci infiniment.
Merci, Mathieu Bock-Côté.